Bonjour à tous. N'est-ce pas une fantastique, une super conférence? On a un merveilleux message. Et j'ai toujours apprécié en psaume 19, verset 12, 90, 12, « Enseigne-nous à compter nos jours afin que nos cœurs soient enclins à la sagesse. » Et c'est la même chose. Seigneur, c'est dans la Bible amplifiée, Seigneur, donne-moi à connaître ma fin et la mesure de mes jours. Laisse-moi comprendre combien je suis fragile et combien ma vie est une vapeur. C'est ma vie n'est qu'une vapeur, n'est qu'un souffle, vraiment est toute brève. Et en 2 Corinthiens 4, 17, il est dit qu'à la lumière de l'éternité qui arrive, une très longue vie ici-bas, la Bible nous dit que ce n'est qu'une vapeur, juste un moment. Quelqu'un qui a 30, 40, 50, 60 ou 80 ans, ce n'est juste qu'une vapeur, juste une seconde. Et nous sommes dans une session qui est glanée dans les évangiles. Et quand on pense à Jésus dans les évangiles, les évangiles évoquent la personne du Seigneur. Et il y avait cette portion qui est venue dans ma tête. Personne d'autre que Jésus n'a compris la valeur du temps et les opportunités en sachant que le monde est mauvais. Jésus seul est un parfait exemple. Et en Jean 9, au verset 4, et ça parle de l'homme aveugle, en Jean 9, 4, nous devons faire les œuvres de celui qui nous a envoyés et nous occuper de ce qu'il fait. C'est encore une fois dans la Bible amplifié. Nous devons nous occuper, pas de nos propres affaires, mais nous devons nous préoccuper de son royaume. Nous devons, tant qu'il fait encore jour, et je pensais à Pasteur Texier, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Pendant qu'il fait jour, alors le Seigneur Jésus était un homme d'affaires, n'est-ce pas? Il était toujours en train de dire, si vous vous souvenez, quand il était petit, il avait 12 ans dans le temple, en Luc 12, 49, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux faire, Jésus ?» fait, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Mon Père, ce n'est pas mes affaires, mais les affaires de mon Père. Et Jésus était vraiment un homme d'affaires extraordinaire. En tant que ce matin, je parlais avec un jeune homme et à l'université, il veut faire une école commerciale. Et c'est un super chrétien où il se demandait, est-ce que je fais une école de commerce ou je vais à l'institut biblique? Et on est tous des hommes d'affaires puisqu'on est tous dans l'affaire de notre Père. Et qu'est-ce qu'il voulait Jésus? Premièrement, en Jean 17, 3, il révélait le Père. Dans tout ce qu'il faisait, il révélait le Père. Son cœur, son amour, sa parole, sa grâce, tout ce qui concernait le caractère et la nature du Père, il nous le révélait. Si vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu, regardez-moi et vous verrez mon Père. Deuxièmement, il est venu en 2 Corinthiens 5, 21 pour devenir péché pour nous, afin que nous soyons sans péché. Et troisièmement, il est venu détruire les œuvres du diable. Et quatrièmement, il est venu surtout pour chercher le perdu. Pendant longtemps, en Luc 19, 10, c'était mon verset préféré. Ce que le Fils voulait par-dessus tout, quand il représentait son Père, en Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui est perdu. Et tout ce qu'on lit dans les évangiles, nous voyons le Seigneur Jésus qui cherche, la femme au puits, Zachée dans son arbre, partout, l'homme riche, l'homme pauvre, les pécheurs, les soi-disant justes, les gens religieux, les vieux, les jeunes, ils cherchaient. Et c'est le mot chercher, c'est zitéo. Ça veut dire chercher ardemment, courir après quelque chose. Et partout où j'ai été dans ce ministère, et j'ai vécu dans 5 pays différents, et j'en ai visité beaucoup, bien sûr, nous avons l'enfance sur la parole de Dieu, mais aussi courir après les perdus, courir après les gens, avec l'amour de Dieu, partout. Pourquoi ? Parce que c'est les affaires de notre Père. C'est le cœur de notre Père. Parce que Dieu aime les gens. Je l'ai écrit dans une lettre de nouvelles. Dieu. Est-ce que Dieu aime les gens? Et je pensais à ceci. Pour nous. Nous aussi, nous avons le cœur du Père. Parce que nous avons l'esprit de Jésus qui habite en nous, en Romains 8, 9. Et nous aussi, nous pouvons être très occupés. Nous pouvons être des hommes d'affaires spirituels. Que vous soyez un homme, une femme, nous nous occupons des affaires de notre Père aujourd'hui. Et je pensais à ce mot aujourd'hui. Je ne peux pas me préoccuper d'hier parce que hier est parti pour toujours. Et peut-être que j'ai beaucoup échoué, mais c'est fini. 5 ans de découragement, mes échecs sont partis. Je pense que nous serions sages de faire ce que fait Paul, oubliant ce qui est derrière. Peut-être qu'hier c'était super, peut-être que j'ai eu des grands succès, peut-être que j'ai fait des super tours, mais hier c'est fini et je vais vivre. Je n'ai plus que maintenant. J'ai maintenant pour m'occuper des affaires de mon Père. Donc avec Paul, nous oublions ce qui vient en arrière. Et j'aimais ce que Pasteur Schaller disait, nous ne devons pas tenir rigueur d'une seule chose à nos frères et sœurs. Et on ne peut pas penser trop au futur, en Jean 4, 13. Vous ne savez pas ce que demain sera fait. Donc, on oublie ce qui est en arrière. Et on comprend qu'on ne sait pas de quoi notre lendemain sera fait. Et j'aime regarder cette émission de télé où il dit, et je vous reverrai la semaine prochaine, bien sûr, dans la volonté de Dieu. Ce que nous avons, c'est aujourd'hui, maintenant. Quelle joie, quel privilège pour terminer d'être aux affaires de notre Père. C'est un honneur. Peu importe où nous sommes, en Floride, à Baltimore, partout dans ce monde, peu importe. Nous pouvons nous attacher aux affaires de notre Père. C'est bon d'avoir la tête sur l'oreiller et de se dire, aujourd'hui je me suis occupé du royaume de mon Père. C'est plus important. Quand on a un job, tu t'es témoignage de Jésus, tu aimes Dieu et que tu fais ton travail de tout ton cœur, et ben Dieu te bénit. Et tu es aussi aux affaires de ton Père. C'est super. Je fais ça chez nous, avec une dame dans notre église. Et elle s'occupe des personnes âgées. Et ces gens, ils s'asseyent. Ils sont vraiment vieux. Et souvent, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bien sûr, j'ai eu une bonne maison, j'ai élevé mes enfants, j'ai eu un bon travail, ça va, c'est très bien. Mais on peut le voir, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait de ma vie? Mais n'est-ce pas merveilleux pour nous? On peut regarder en arrière et se dire, j'utilise mon temps de la bonne façon, je ne perds pas les opportunités qu'on me donne. Je vis pour Christ, je suis aux affaires de mon Père. Ce n'est pas quelque chose qui me pèse, ce n'est pas un fardeau. On a rencontré tant de on est tous des missionnaires. Et les gens, comment ça va? Oh, je sers Dieu. Et c'est dur. Mais moi, je suis content d'être, de venir à la conférence, mais je vais devoir retourner servir Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Je vous rencontre et on se dit, on réjouit. Waouh, c'est super parce que nous avons communion avec Jésus-Christ. Comme Jésus, par le Saint-Esprit et la parole qui habite en nous, en Colossiens 3. Nous sommes aux affaires de notre Père. On ne peut pas payer pour le péché des autres, mais on peut glorifier Dieu par l'Esprit. On peut révéler sa grâce, son pardon, sa parole, sa vie. En fait, il va utiliser nos mains, nos pieds et nos yeux. Nous sommes ses yeux, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds. Nous, comme tout comme Jésus, nous le faisons. Et nous courons après les gens. Nous allons chercher ce qui est perdu. Dans quelques villes que nous vivions, aux États-Unis, dans ma ville à Londres, n'importe où dans ce monde. Pasteur Shibeli m'a dit un jour, il y a très longtemps, en fait, en tant qu'évangéliste, tu ne seras jamais au chômage, jusqu'à notre dernier souffle dans ce monde. On est aux affaires de notre Père, en disant, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est perdu, à qui je puisse partager ton amour? Et c'est tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas super d'être aux affaires de notre Père dans les quelques jours qui nous restent? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je me souviens que tu es de Seth Berwick. Ça fait longtemps que je te connais maintenant. Plusieurs années. C'était tellement rafraîchissant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de South Berwick qui sont là? Judy et Dave. Aussi là-bas au fond.
Oh.
Toi aussi. Oh, j'aime ça. J'aime ça. C'est super. Est-ce que Pasteur Bob Horn est ici?
Oh.
Il faudrait que tu viennes nous voir. Est-ce que tu peux venir maintenant? Combien d'entre vous savez combien nous avons? Et si vous ne savez pas, Pasteur Horn était avec Pasteur Stevens à Lenox et c'était notre song leader. C'était lui qui nous entraînait dans. Et il avait toujours un costume rouge. Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour toi, et vraiment. Et j'adore ça. Et vraiment, c'est ce que je veux dire. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose et nous encourager à chanter, nous conduire dans un chant? C'est le conducteur de louanges à Lenox pour l'Institut biblique. Il y a longtemps. Hier, j'étais, à cause de mon dos, j'étais dans mon lit. J'étais en train de regarder le plafond, maintenant je vous regarde vous. Joyce et Pasteur Fournier viennent du New Hampshire. Nous, Nous avons eu le plaisir de les voir nous rejoindre dans le New Henshot. Et si vous pouvez vous voir, vous, dans un cours avec Pasteur Pasteur Stevens est sur le point de venir. Et il sait très bien comment vous réveiller. C'est tôt le matin. Et quand il vous dit, ah ben viens et conduis-nous, il ne savait pas que je portais un costume. Dans ce costume rouge, et ce costume rouge d'ailleurs me va toujours, mais je rentre toujours dedans, mais j'étais trop timide pour la porter. Mais une de nos chansons préférées, et je sais que que Dieu l'a envoyée et nous l'avons laissée venir ici à l'Institut, elle ne peut plus. The Lord reigneth.
Now, I said to somebody who said, you're going to sing The Lord reigneth, aren't you?
You
mean The Lord reigneth?
The Lord reigneth.
Those of you who were in that student classroom all those years,
ceux d'entre vous qui avez été dans ces cours, vous allez chanter avec moi.
All right. Here we go.
Et on y va.
The Lord reigneth, the Lord reigneth.
On aime ça, vraiment, beaucoup. Merci, c'était super. Notre prochain prédicateur, Pasteur Juha, de Finlande, à Helsinki, en Finlande. Combien d'entre vous, si vous êtes de Finlande, est-ce que vous pouvez vous lever si vous êtes un missionnaire ou vous venez de Finlande?
Wow.
Tout ça. Vous savez ce que le Seigneur a fait en Finlande était incroyable. Pasteur Juha est vraiment un instrument de cette œuvre en tant que pasteur. Il est vraiment très engagé pour Christ. Il le suit. On t'aime. Et son épouse Twiko, est-ce que tu es là? Ah, elle est là au deuxième rang. Son mari, elle est ta plus grande fan, n'est-ce pas? C'est elle qui va te dire, ouais, c'est un super message. En fait, ils viennent d'avoir une nouvelle église à Helsinki. Ils font un super travail parmi les jeunes. Matt La Flamme prévoit de partir là-bas et de faire partie de l'équipe missionnaire. Pasteur Michael Toll, qui vient de Suède. Et en fait, il y avait de la rivalité entre les Finnois et les Suédois, mais maintenant, priez aussi pour de nouvelles œuvres en Scandinavie, en Finlande, en Suède, en Islande, au Danemark et aussi en Norvège. On aime vraiment ton autorité, nous aimons ta personne. Et viens, s'il te plaît, et vas-y, prêche. C'est tellement un privilège d'être ici avec vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous demander. Nous avons des photos sur notre ordinateur. Et voici Luca. Il est de mon église. Et si vous voulez aller voir les photos du nouveau building qu'on a, et ben allez le voir. Lui et sa femme pensent aller au Kenya, implanter une église là-bas. Voulez-vous prier avec moi, s'il vous plaît? Père, nous te demandons de bénir ce court message, Seigneur, qui puisse venir de ton cœur et atteindre notre cœur, afin que nous soyons encouragés, édifiés par ton amour et par ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles en Luc, chapitre 4. Et je pensais à la façon dont Jésus s'est trouvé dans le désert, conduit dans le désert. Et Satan était là pour le tenter. Et au verset 14, nous voyons, il est dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il est retourné du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance du Seigneur. Dans l'évangile de Marc, il est dit qu'il était parmi les bêtes sauvages et que le diable l'a tenté pendant 40 jours. Et que des anges l'ont servi. Et je pense, si une personne est dans le désert pendant 40 jours et qu'il en sort, à votre avis, à quoi ressemblerait-il? Ses habits, avec les habits déchirés, avec une peau extrêmement burinée. Mais il est dit que Jésus est revenu revêtu de la puissance de l'Esprit Saint. Et je pensais combien de fois, en tant que chrétiens, nous sommes dans nos petits déserts. Et comment en sortons-nous de nos déserts? Et comment nous sentons-nous après? En 2 Rois, il y a une histoire à propos d'Élisée. On va regarder ça. 2 Rois au chapitre 7.
Chapter 7, verse 1.
Au verset 1. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. Et donc, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et dans le chapitre précédent, il est dit qu'il y avait une grande famille en Israël. On peut dire que c'était un désert pour eux.
On
dit que même une tête d'âne était très chère. Alors, il faut être un super commercial pour vendre ce genre de truc à quelqu'un. Notamment ici, parce qu'il y a tellement de bonne nourriture à vendre. Mais on peut bien s'imaginer quel temps difficile ils traversaient. Et l'homme de Dieu est venu en disant, ça va devenir bientôt... Tout ça, ce sera très, très, très peu cher. Vous aurez plein de nourriture et à de très bons prix. Et le roi qui s'appuyait sur un officier, s'appuyait sur sa main, mais est-ce que Dieu va ouvrir des fenêtres au ciel? Comment ça peut-il se produire? Ça ne peut pas se produire. Et en fait, cet homme s'est reposé sur sa propre force et son propre incrédulité, sur ses propres soldats. Mais l'homme de Dieu a dit, tu le verras, mais tu ne pourras pas en manger.
chapter 7, verse 18,
au chapitre 7, au verset 8, il est dit, tout s'est déroulé exactement comme l'homme de Dieu l'avait dit.
And in the last verse in chapter 7 says,
et au chapitre 7, il est dit,
him,
et il lui
en
fait, et en fait, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Il est mort alors que la promesse de Dieu venait de se réaliser. Ils étaient dans le désert, entre guillemets. Ils traversaient un moment difficile. Et le roi s'appuyait sur de l'incrédulité. Parce qu'il fallait absolument qu'il s'appuie sur quelque chose. Jésus, alors qu'il était au désert, s'appuyait sur son Père. Et il est sorti du désert. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et je pensais juste combien il est essentiel de s'appuyer sur Dieu, de s'appuyer sur lui dans nos déserts, où que nous soyons. Nous savons que nous avons des moments comme ça, que nous traversons des périodes difficiles. Mais c'est beau de penser, comme par exemple l'apôtre Jean, il était jeune et il s'appuyait contre la poitrine de Jésus en Jean 13. Son oreille était contre la poitrine de Jésus. Il entendait. Il écoutait ses paroles, et non seulement les paroles, mais aussi le battement du cœur de Jésus. Et voilà pourquoi ça a été un homme extraordinaire. Et c'est pour ça que je crois qu'il était capable de dire, « Je suis le disciple que Jésus aime. » C'était la raison. La raison pour laquelle il a été capable de dire ça. Parce qu'il ne se bornait pas juste à écouter les paroles, mais aussi il a entendu le battement du cœur de Dieu et de Jésus. Et lorsque nous sommes dans nos déserts, il faut absolument que nous trouvions un refuge et un appui quelque part. Et ça peut être tellement facile de se reposer sur notre incrédulité en disant « Non, c'est pas possible. » Parce que les circonstances sont comme ça et on n'a rien d'autre. Et tout est tellement cher, ça ne peut pas se produire. Et tout d'un coup, et une réponse aux prières arrive. Et tous les problèmes se dissolvent. Mais tandis que nous sommes dans la situation, il faut que nous fassions confiance en lui.
Et je pense que c'est un beautiful verse. Song of Solomon,
et dans le Cantique des Cantiques,
chapter 8,
au chapitre 8,
chapter 8, verse 5, Song of Solomon, chapter 8, verse 5,
verset 5,
or this is the question.
C'est une question qui est posée. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Et c'est une image magnifique. Nous sortons de nos déserts appuyés sur notre bien-aimé. Et en Proverbe 3, 5, vous connaissez bien ce passage qui dit « Confie-toi en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas, ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Et c'est tellement facile de s'appuyer sur notre compréhension dans nos situations difficiles. Mais il est extraordinaire de voir ce que nous avons dans la parole de Dieu. Nous avons ses promesses et nous pouvons nous attacher à ses promesses. Et il nous dit lui-même qu'il est toujours avec nous. Et il donne ses promesses afin que nous puissions sortir. Chacun peut voir et témoigner que nous sommes en train de nous appuyer sur notre bien-aimé et celui qui nous aime. Et il nous aime et nous avons appris à l'aimer. Et je me posais cette question à moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Yua, de s'appuyer sur Jésus? De façon pratique, je lis ma Bible et juste je la crois tout simplement. Et Dieu me parle. Nous avons ces t-shirts, pas là tout de suite, mais qui dit Ramatabuhu, qui signifie la Bible parle en finlandais. Et c'est super de vêtir ce t-shirt, mais c'est encore mieux de savoir que la Bible me parle à moi. Et ce n'est pas que des paroles, mais c'est aussi le battement de cœur de Jésus. Père, nous te demandons de bénir cette parole à notre cœur et on te remercie parce que tu nous aimes et tu nous laisses t'aimer au nom de Jésus. Amen. Notre prochain invité vient d'ici, de Baltimore. Et il a prouvé que quel que soit le pasteur des jeunes, tu peux être quelqu'un avec du succès. Merci d'accueillir pasteur Reynaldo Brown qui est à Moussaka. En Zambie, bonjour. On va tourner en Matthieu. Vous avez laissé l'adaptation de l'église de Zambie. De ma fille et de ma femme. Je ne sais pas ce qu'elle dit, ma fille, mais ça. Elle me dit allô. Pour l'instant, c'est tout ce qu'elle dit. En Matthieu 9, et on va commencer au verset 35. Matthieu 9. Et Jésus était dans les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, Seigneur, bénis ces paroles. Merci pour notre Église, pour ta vision, pour ton appel, pour ton but, pour tout ce que tu nous as donné, uniquement par grâce. Continue de nous bénir en ton nom. Amen. Quand on regarde ce moment dans les Écritures, on voit que Jésus-Christ est en train de compter les jours. Il va dans l'œuvre du Père. Il est en train de discerner, d'observer certaines choses. Il conduit par l'Esprit. Il bouge par amour. Il ne recompte pas les gens en fonction de ce qu'ils font, mais il voit directement à leur cœur. Et il sent combien ils passent par des moments difficiles. Ils n'ont pas besoin de lui expliquer. Il les voit et il sait exactement ce qui se passe. Il les regarde et il fait cette conclusion incroyable. Il y a une moisson. Il y a une moisson. Et la moisson parle quelque chose qui doit être rassemblé, qui est prête maintenant, tout de suite. Il dit qu'il y a une grande moisson. C'est pas juste quelque chose que quelqu'un peut faire, une seule personne. Il faut, et ensuite il parle des ouvriers. Et un ouvrier, sa responsabilité, ce n'est pas de produire du fruit. Sa responsabilité n'est pas uniquement de semer ou de cultiver. Un laboureur a une responsabilité. Il rassemble, il rentre la moisson. Un laboureur reçoit tout ce qui a déjà été produit. Ce n'est pas un travail sur ma capacité, mais est-ce que je suis disponible à recevoir ce que Dieu a déjà produit. Et il dit, ce genre de personnes, ce genre d'ouvriers, il y en a très peu.
Not few because of who could, but few because of who would.
Parce qu'en fait, il y en a très très peu. C'est une possibilité. Ça parle juste d'être disponible. Il y a très peu de gens qui sont capables de recevoir ce qui a déjà été produit. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient recevoir ce qu'ils peuvent produire. Mais Christ parle de gens qui veulent recevoir ce que Dieu a déjà fait. Et ils sont très peu. En fait, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités, et il y a très peu de gens disponibles. Et même aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est l'esprit de Laodicée qu'on trouve en Apocalypse. Une église qui voit la moisson, mais très peu d'ouvriers. Une fois, j'ai dit à un homme, c'est un missionnaire en Afrique, il y a trop d'églises déjà. En fait, il est en train de rentrer chez lui et commencer sa propre affaire. Il y a ce sentiment, cette religion chrétienne. Oh, on en a fait assez. Les gens, en disant, il y a très peu de gens qui connaissent Christ. L'œuvre est faite et on n'a plus besoin d'évangéliser. C'est terminé. L'Église a déjà fait une super œuvre. Et en fait, c'est vraiment l'ennemi de l'opportunité, c'est l'indifférence. L'indifférence renie et ignore les opportunités que Dieu nous donne. N'y fait même pas attention. Et tout d'un coup, vous voyez des budgets missionnaires qui baissent. Il y a des équipes d'évangélisation qui passent de 15 à 2. Parce que tout est soi-disant fait. Bien sûr, les conditions ne changent pas. Quelle que soit ma réponse à l'opportunité, l'opportunité ne change pas. Il y a toujours une grande moisson devant moi. Et si on pense comme ça, après un moment, vous dites le mot avec le E. Assez. On a touché assez de pays, on a touché assez de gens, c'est assez. Tout est assez. 2 Timothée 4:10, Dimas a dit, je retourne dans le monde parce que j'en ai suffisamment fait. Un roi, dans la petite voix, a parlé à Élisée en disant, c'est fini, j'en ai assez. 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 2 Samuel 11:1, à l'époque où les rois partaient en bataille, David s'est assis en disant, c'est assez, je reste à Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, le fait de compter, ça parle du résultat d'un calcul mental. Lorsque je calcule mes jours, je compte mes jours, je fais un calcul mental et je suis déconnecté de l'Esprit de Dieu. Et je peux me retrouver à dire, j'en ai assez fait. J'ai déjà donné. Ça me rappelle d'une histoire que Pasteur Chaleur dit. Il évangélisait et toutes ses années de service religieux. Et Pasteur Chaleur lui a dit, mais qui compte? Qui compte? C'est bien de compter mes jours, mais qui compte? Qui est le comptable? En Exode 14, est-ce que c'est la mer Rouge ou est-ce que c'est la fidélité de Dieu? Qui compte? En Juges 16, est-ce que Samson est attaché à une roue ou est-ce que Dieu est fidèle? Quand je regarde à ma ressource, à mes finances, à mon éducation, mais qui compte? Si Dieu compte, on peut dire qu'on voit les champs remplis de moissons. Dieu compte et je peux faire partie de ces peu-là, de ces quelques-uns. Si Dieu compte, alors la nuit des missions, c'est super. Si Dieu compte, si Dieu compte, les budgets missionnaires ne vont pas rétrécir, mais au contraire exploser. Et l'Institut biblique va exploser. Qui compte? Qui compte? Est-ce que mon nom est Mara ou Naomi? Qui compte? Est-ce que j'évalue ma vie en disant voici la colonne des plus et la colonne des moins? Mais qui compte? Mais lorsque ma pensée est connectée à la pensée de Christ, alors j'ai sa propre méthode de calcul et je suis dans un système comptable éternel. Et le Saint-Esprit va appliquer la croix à mon système de calcul. Qui compte? Qui compte? On avait entendu plus tôt, on oublie ce qui est en arrière et nous pressons de l'avant. Les succès, les échecs, tout ce qui est en arrière est en arrière parce que Dieu est devant. Le plan de Dieu va toujours de l'avant. On est appelé à quelque chose qui va de l'avant. On est presque 2000 ans plus tard. Beaucoup d'églises, beaucoup de saints, beaucoup de gens sont avec le Seigneur maintenant. Mais on entend la voix de Christ, sa compassion, son amour. Et on peut l'entendre murmurer. La moisson est prête, elle est grande. Et il y a peu d'ouvriers. Il y a tellement peu d'ouvriers. Parfois, je peux faire partie de ces ouvriers. Dans mon travail, je n'ai pas besoin d'observer ou de dénombrer le reste. Je sais que Dieu a dénombré les choses pour moi. Il m'a appelé moi. Et aujourd'hui, avec nos yeux fixés sur la mission, la moisson est prête. La moisson est prête. Il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas de assez. 1 Thessaloniciens 1 à 17, il n'y a pas d'assez. Et si quelqu'un évangélise et Jésus revient, il donne l'évangile et dit, oh regarde, c'est celui dont je te parlais. Il est enlevé dans les airs. Ah, en fait, tu voulais Christ de rentrer. Et tout d'un coup, vous voyez, voilà, c'est lui, tu vois. Là, tu veux savoir à quoi il ressemble, Jésus, le voilà. La moisson est blanche. Les ouvriers sont peu nombreux, mais notre Dieu est fidèle, donc on peut y aller. Amen. Merci, pasteur Reynaldo. Juste de rester sur cette pensée un instant. Combien d'entre vous quels sont les problèmes qu'ont les gens qu'on évangélise? Quels sont les problèmes des gens dans ce monde? Les problèmes économiques, la drogue, problème de relations, la maladie, les relations. Eiko, tu as dit ça, les problèmes de relations. Est-ce que ce sont des brebis? Et ce sont des brebis sans berger. Et ils ont beaucoup de soucis. Quelle est la population mondiale? 6 milliards, 6,3. Et combien d'entre eux ont besoin d'un bon berger? Et quels sont les problèmes que rencontrent les gens dans cette vie? Combien de suicides? Combien de vides? Combien de solitudes? Combien de maladies? Combien de blessures? Combien de souffrances y a-t-il dans le monde? Et cela touche nos cœurs. Et combien de pasteurs, si vous êtes pasteur d'une assemblée, levez-vous s'il vous plaît. Vous êtes pasteur d'une église. Regardez ces hommes, ces gars-là qui se lèvent. Restez debout si c'est possible. Je ne veux pas le faire de façon dramatique, mais j'aimerais qu'on considère dans notre cœur, est-ce que Dieu a donné ces hommes? Est-ce qu'ils sont des cœurs pour les brebis? Est-ce qu'ils cherchent les brebis perdues? Sommes-nous dans le monde à cause de cela, pour cette raison? Et quand on y réfléchit, vous pensez au cadeau que Dieu fait, que Jésus a fait, et l'un d'entre eux est pasteur enseignant, et nous sommes dans le monde, comme pasteur Renaldo l'a dit, pour voir et pour chercher, pour écouter les conversations, pour prendre soin, pour conduire les gens, pour prier, pour investir et enseigner et équiper. Et tous cherchent des brebis perdues. Et c'est évident. Et on va juste prier pour ces hommes, pour notre congrégation. Seigneur, on te demande une fraîcheur pour le fardeau, pour le ministère, que nous puissions faire attention, que tu puisses taper à la porte de notre cœur, que nous puissions écouter, que nous puissions apprendre à aimer, qu'il y ait une grande vitalité spirituelle, qu'on puisse être motivé et même presque être agressif dans notre recherche, qu'on laisse les 99 autres et qu'on cherche en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, que nous puissions être attentionnés, que nous puissions avoir un cœur. Et que plus que jamais, tandis que nous voyons la réalité de ce qui se passe dans ce monde, que nous ayons un cœur et que nos églises soient comme des maisons, comme un foyer. Un foyer. Que notre église soit un endroit, un lieu de repos, de nouveauté de vie, de fraîcheur, de vitalité, de réalité, de conviction, de doctrine et de croissance. Que nos églises soient remplies de gens qui soient dévoués et qui te suivent, afin que nous soyons des pasteurs selon ton cœur, tel qu'on le voit en Jérémie 23, que nous soyons des pasteurs selon ton cœur, ce que nous voulons être. Et tu nous as envoyés dans ce monde pour cette raison. On te demande de bénir Laconia dans le New Hampshire, à Chicago, dans le Maine, en Floride, à Indianapolis, Greenfield, Nashville, Kentucky, Cincinnati, en Pennsylvanie, Père, Maryland, la radio, des tracks, des livrets, par tous les moyens, dans nos conversations avec les anciens, avec les gens dans les prisons, Pasteur Yuga dans le Maine, partout, on te demande de bouger et on prie cela au nom de Jésus, qu'on puisse avoir des équipes de prière tôt le matin, la prière au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci tellement pour votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. C'est super. Donc, on va avoir un temps de questions-réponses. Et en fait, à la fin, il y a eu un, la climatisation a cassé. Pasteur Chibeli et moi, on va rencontrer des jeunes. Vraiment, le temps coule si vite. Et le soir, je suis là. Oh, il faut que je voie lui, il faut que je la voie elle. Et je me réveille avec ça. Et c'est super. Le culte est terminé.